France Inter.
France Inter, le 18-20.
Une semaine en France avec un homme qui s'est pris de passion pour les microbes. Philippe Sansonetti est médecin infectiologue, professeur émérite à l'Institut Pasteur et au Collège de France. Il publie aux éditions Odile Jacob « Microbes sans frontières ». Un ouvrage qui vient nous rappeler à quel point les microbes aiment voir du pays, pour peu qu'on les aide à voyager. C'est ce que fait le moustique tigre, qui n'est pourtant pas un grand baroudeur au départ.
Ce moustique, il vole très mal. Il va pas aller au-delà des 150 mètres de là où il est né. Mais par contre, il prend l'avion, le bateau et surtout la voiture.
Le moustique tigre qui a colonisé tout l'Hexagone, capable de transmettre des maladies comme la dengue, dont les cas sont de plus en plus nombreux. D'où la nécessité de préserver l'environnement et d'associer médecine humaine et vétérinaire, car la menace de nouvelles pandémies est bien réelle. D'ailleurs, l'OMS vient de sonner le tocsin à propos de la grippe aviaire. Faut-il redouter une nouvelle pandémie? Nous poserons la question à notre invité, dont le livre raconte également l'histoire des antibiotiques et des vaccins. Sachez qu'après avoir lu cet ouvrage, vous ne verrez plus les microbes de la même façon. À 19h, ce sera le journal d'Hélène Philly. À 19h20, le téléphone sonne. Ce soir, on va s'intéresser aux mouvements de population qui ont suivi la crise du Covid. Attirance vers les zones littorales, vers certaines métropoles. On verra que la pandémie a accéléré des tendances déjà existantes. Alors que vous habitiez en ville, à la mer, à la montagne, à la campagne, que vous ayez déménagé ou pas, n'hésitez pas à nous appeler. Merci à toute l'équipe du 18-20, Irène Menahem à la préparation, Juliette Gou à la réalisation, Marie-Kévin à la page web. Merci aussi à nos standardistes, ainsi qu'à Selim Guéribi, Sofiane Aktib et Florian Dorimini. Ils sont à la technique ce soir.
Pierre Servageant. Une semaine en France.
Bonsoir professeur Philippe Sansonetti.
Bonsoir madame.
Vous êtes médecin, chercheur, professeur émérite à l'Institut Pasteur et au Collège de France. Vous avez passé votre vie à traquer les microbes pour lesquels vous avez, je crois qu'on peut le dire, une véritable passion. D'ailleurs, dans ce livre, Microbes sans frontières, publié chez Odile Jacob, vous voulez réhabiliter les microbes d'une certaine façon. Vous dites que sans eux, d'abord, on ne serait pas là. Puis vous dites aussi qu'il y a microbes et microbes. Alors expliquez-nous.
Oui, on a une vision, en particulier depuis la fin du 19e siècle, les microbes cause de maladies, une vision assez noire des microbes. L'idée, c'est quand même de démontrer ou de montrer, en tout cas, que ça n'est qu'une toute petite partie de ce que font les microbes, y compris de l'interface entre les microbes et nous. C'est-à-dire que, on dit, les microbes, 1% des microbes sont pathogènes. Ça ne veut pas dire grand-chose. Ça veut juste dire que très très peu sont pathogènes par rapport à l'immense nombre d'espèces microbiennes, à la fois qui habitent l'homme, les animaux, mais aussi la terre, les océans. Donc il y a une vision globale de la microbiologie qui doit se réinstaller, en particulier dans ces époques où, sous l'influence du changement climatique, de changements brutaux, de la température, des pluviosités, les écosystèmes microbiens souffrent autant que les animaux et les hommes, et la biodiversité qui se réduit au niveau macroscopique, je dirais, se réduit aussi, sans qu'on la voie par définition, au niveau microscopique. Donc c'est un peu effectivement un plaidoyer pour mettre les microbes, le monde du silence, comme je l'appelle, des microbes, de nouveau au premier plan de nos préoccupations.
Alors 1% seulement des microbes qui sont pathogènes, c'est ce que vous dites, mais enfin quelles conséquences, hein, c'est pas rien ce qu'ils nous ont fait subir. Dans ce livre, vous racontez à quel point l'augmentation spectaculaire de l'espérance de vie est liée au progrès contre les maladies infectieuses, contre ces microbes les plus pathogènes, les plus embêtants.
Oui, enfin une raison principale de la courte espérance de vie était plus dans la moyenne des espérances de vie et donc dans la mortalité infantile qui était massive au début encore du 20e siècle, hein, c'est pas si vieux. La mortalité infantile, c'est-à-dire la mortalité dans la première année de la vie, était de 150 pour 1000. Énorme. Aujourd'hui, elle est de 3,7 pour 1000. Donc on voit une diminution de 40 fois la mortalité, et puis bien entendu l'amélioration de l'hygiène, les antibiotiques, les vaccins, tout ça, ça permet aussi de vivre plus vieux. Donc il y a un ensemble qui fait que, mais...
Mais les maladies infectieuses n'ont pas disparu, alors on s'en est rendu compte avec le Covid, hein, il y a 4 ans, on a tous eu une piqûre de rappel, si on peut dire, mais il n'y a pas que ça. L'OMS, il y a une semaine, a fait part de son énorme inquiétude, et là je cite les mots de l'OMS à propos de la grippe aviaire, de la propagation croissante de la souche H5N1 à de nouvelles espèces, y compris les humains. Les derniers cas en date concernent les États-Unis. Une personne a été infectée par une vache laitière au Texas. Le virus a été retrouvé dans du lait de vache, y compris du lait pasteurisé. Alors, Philippe Sansonetti, vous qui êtes un spécialiste, est-ce que c'est inquiétant ?
Oui, c'est inquiétant. Je pense qu'il faut s'inquiéter. Jeremy Farrar, qui est le directeur scientifique de l'Organisation mondiale de la santé, est tout à fait dans son rôle de nous alerter, dans la mesure où, au fond, l'idée, c'est pas d'inquiéter les populations, même si il y a de quoi s'inquiéter dans une certaine mesure, mais c'est surtout d'être prêt à cette espèce de... On est en train de vivre avec la grippe aviaire, en particulier avec H5N1 depuis des années, depuis 1997, une espèce de flirt avec l'espèce humaine. C'est-à-dire que ce virus, qui est un virus porté essentiellement par les oiseaux sauvages, transmis éventuellement à des oiseaux domestiques, des canards, des poulets, jusqu'à présent, était resté dans ce cycle particulier. Ce qui se passe depuis quelques années, et d'ailleurs on avait anticipé éventuellement que la prochaine pandémie serait éventuellement la grippe aviaire, et puis
c'était ça
a été la grippe porcine,
plus, hein.
Et puis ensuite ça a été le SARS-CoV-2, le Covid-19. Donc voilà, à chaque fois la prévision ne se confirme pas, mais en même temps, avec le temps, les choses changent, et c'est ce que vous avez dit, c'est-à-dire que ce qu'on a vu ces dernières années, très récemment en fait, c'est que le virus qui n'était qu'un virus aviaire est devenu aussi un virus qui se développe chez les mammifères. Ça a commencé chez les visons, c'est maintenant chez les vaches. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que dans son cahier des charges de ce qu'on appelle le passage de la barrière d'espèce, c'est-à-dire du passage de ce qu'on appelle une épizootie, c'est-à-dire une maladie qui ne concerne que les animaux, vers une zoonose, ce virus, progressivement, une par une, passe ses étapes. Maintenant, il est passé chez les mammifères. L'homme, c'est un mammifère. Donc, on sent tout doucement quelque chose qui va vers la possibilité, à un moment ou à un autre, d'une vraie transmission à l'homme. Pour l'instant, ce sont des cas relativement accidentels et qui ne donnent pas lieu véritablement à épidémie, parce que le virus H5N1, en tout cas, n'a pas suffisamment changé pour assurer la transmissibilité. Ce que j'appelais le cahier des charges, c'est à la fois de pouvoir infecter un individu, mais pour qu'il y ait épidémie, il faut que cet individu infecté puisse transmettre le virus à d'autres, et ainsi de suite. Donc ça, c'est pas encore rempli,
mais ça pourrait venir. Voilà, ça nécessite une surveillance très fine, surveillance désormais surtout vétérinaire. On va écouter le professeur Jean-Luc Guérin de l'école vétérinaire de Toulouse. Il est avec Julien Langlais de France Info.
Il faut être préoccupé, il faut surveiller effectivement ce qui se passe avec les différentes souches de virus qui circulent à l'échelle mondiale, et il faut bien faire attention à la nuance entre les souches qui circulent actuellement et depuis de nombreuses années en Asie et qui sont à l'origine de la plupart des cas humains. Et puis les souches qui circulent en Europe et qui circulent aux États-Unis, qui sont par exemple à l'origine des cas chez les bovins, et qui sont sensiblement différentes et qui sont beaucoup moins à risque de transmission aujourd'hui à l'homme. Donc aujourd'hui, ce que l'on fait, c'est un travail de surveillance génétique, c'est-à-dire de séquençage des virus qui apparaissent chez les oiseaux, les mammifères, les vaches, et éventuellement chez l'homme, pour voir si on a ces marqueurs-là. C'est cette surveillance qui est importante pour prendre en amont un éventuel phénomène d'émergence d'une souche qui aurait acquis une légèrement plus grande capacité de multiplication chez l'homme.
Philippe Sansonetti, la crainte qu'on a à terme, c'est évidemment qu'il y ait une transmission interhumaine.
Absolument, c'est l'inquiétude.
Parce que c'est une létalité bien supérieure à celle du Covid encore.
Alors, pour l'instant, effectivement, ces cas humains qui sont des transmissions directes, probablement d'un animal mort auprès duquel des humains se sont contaminés, donnent des formes extrêmement graves. Oui, la mortalité est supérieure à 50%. Vous imaginez un Covid à 50% de mortalité. D'abord, on ne serait pas là pour en parler, probablement, mais aussi, c'est assez terrifiant. Alors, la question, c'est une question qui est très intéressante, d'ailleurs, sur le plan de l'évolution. C'est, est-ce que un virus peut se permettre de causer une telle létalité, une telle mortalité, s'il veut véritablement disséminer, hein. Je lui donne presque un pouvoir individuel, mais vous voyez un peu la question. Et est-ce qu'il n'y a pas un équilibre qui se ferait entre la transmissibilité et la virulence ? Parce qu'après tout, c'est idiot de tuer son hôte, puisqu'on veut se multiplier, il vaut mieux se transmettre de l'un à l'autre. Donc il y a tout un tas de paramètres qu'on ne maîtrise pas encore tout à fait, mais il est vrai qu'il faut maîtriser la transmissibilité.
Et vous dites aussi qu'il est urgentissime de trouver un vaccin H5N1.
humain.
Il est clair que dans ce concept une santé qui vient d'être mentionné par notre vétérinaire, il faut à la fois protéger les animaux, ceux auprès desquels éventuellement on évolue. C'est ce qui est en train de se faire après pas mal d'années et pas mal d'hésitations pour des raisons qui m'ont parfois échappé, je le dis dans mon livre. Et puis, ils font un vaccin humain. Alors, la bonne nouvelle, c'est que avec le vaccin ARN messager, on peut d'ores et déjà préparer des stocks de vaccins H5N1 et puis éventuellement, si nécessaire, assez rapidement, adapter. On sait les cibles, on sait ce qu'il faut mettre dans ces vaccins, les adapter aux variants éventuels qui donneraient lieu à un début d'épidémie chez l'homme. Donc oui, bien sûr, il faut être prêt, l'arme au pied, pour pouvoir développer un vaccin. On a la chance de savoir contre quelle protéine du virus il faut protéger. On a les technologies et tout ça est en train de se mettre en place. Et c'est ça que dit l'OMS, c'est qu'il faut rester en alerte, faut surveiller et il faut surtout rapporter. Ce qui se passe dans les pandémies récentes qu'on a pu avoir, c'est qu'il y a eu trop de retard dans la description et ça nécessite effectivement la présence sur le terrain de médecins et de vétérinaires qui sont capables, avec les outils nécessaires, de voir que quelque chose de nouveau émerge. Et puis aussi une honnêteté, je dirais, au niveau des politiques qui ne cachent pas ou qui ne se cachent pas derrière leurs petits doigts parce qu'il y a des raisons économiques, parce qu'il y a des raisons politiques. Il faut y aller très très vite, il faut donner les alertes extrêmement rapidement. C'est à ce compte-là qu'on pourra tuer les épidémies dans l'œuf.
Voilà, et on verra tout à l'heure aussi qu'on se prépare, y compris pour les Jeux Olympiques, puisqu'il va y avoir un grand brassage de population à venir. Mais on va d'abord s'arrêter sur l'actualité de la semaine, grâce à ce mix qui a été mis en onde par Juliette Gou. À la une, cette semaine, Emmanuel Macron qui s'engage dans la campagne des Européennes, Gabriel Attal qui joue les pères fouettards, mais d'abord, un nouveau drame de l'immigration.
À quelques centaines de mètres de la côte, le moteur s'est stoppé et plusieurs personnes sont tombées à l'eau.
Le préfet du Pas-de-Calais après ce nouveau drame dans la Manche.
Malgré les tentatives de réanimation, 5 sont décédés.
Dont une petite fille de 4 ans, le maire de Vimereux, Jean-Luc Dubel, entre dépit et colère.
C'est pas possible de continuer dans cette situation. On laisse partir des gens à l'abattoir. Et c'est pas logique, c'est pas normal. Et il y en a marre.
Il avait promis de passer à l'attaque contre la violence des mineurs. Lundi, Gabriel Attal était à Nice, où il a accueilli des élèves décrocheurs en stage dit de rupture.
Est-ce que vous êtes content d'être là d'abord ? Non ? Bah c'est rassurant. Qui veut témoigner ? Vas-y. Allez, prends le micro.
Allez, dépêche-toi.
Elle dit que ma mère m'a forcé, c'est tout.
T'as forcé, d'accord.
Voilà une mère qui fait son travail.
Et qu'est-ce qu'elle a donné comme argument ?
Elle m'a dit que j'allais partir en vacances.
Bon, mais ici, tu vas être avec d'autres jeunes.
Donc t'es un peu en vacances.
Bon, toi, dis-nous alors.
Non, moi, je suis pas content du tout. Ma mère, elle m'a obligé. Et je vois que c'est pas bien, là.
Ça a pas démarré encore. Ça commence ce matin.
Voilà comment il faut parler aux jeunes. Après, quand ils vous posent des questions, c'est une autre histoire.
Vous en pensez quoi de Macron ?
Celle-là, il ne l'avait pas vue venir.
Moi, je travaille avec lui, donc...
Je travaille avec lui, je ne peux pas dire grand-chose. Les critiques, on les laisse à l'opposition.
Quel accueil !
Raphaël Glucksmann, en campagne pour les Européennes.
Aujourd'hui, nous avons voté la directive sur les travailleurs des plateformes. Et je dois dire que ce n'est pas grâce à Emmanuel Macron.
Raphaël Glucksmann, bien décidé à faire mieux que la liste défendue par le chef de l'État. Mais pour l'instant, c'est la liste RN conduite par Jordan Bardella qui fait la course en tête.
Notre adversaire dans cette élection européenne, c'est Emmanuel Macron.
Emmanuel Macron au secours de la liste Renaissance, de retour à la Sorbonne.
Nous devons être lucide sur le fait que notre Europe, aujourd'hui, est mortelle. Elle peut mourir.
Nouvelle convocation pour apologie de terrorisme. Cette fois, cela concerne la chef de file des députés insoumis, Mathilde Panot.
C'est à ma connaissance inédit qu'une présidente de groupe parlementaire fasse l'objet d'une telle convocation.
Manuel Bompard, coordonnateur de la France Insoumise.
Ça s'inscrit dans une dérive autoritaire du pouvoir en place.
Condamnation définitive pour François Fillon et son épouse dans l'affaire de son emploi fictif d'assistante parlementaire, 7 ans après cette déclaration d'amour.
Devant 15 000 témoins,
Je veux dire à Pénélope que je l'aime.
Condamnation, dit la Cour de cassation, mais nouveau procès à venir pour préciser sa peine à lui. Des records de chaleur début avril, suivi d'un épisode de gel au début de la semaine, scénario catastrophe pour les viticulteurs.
C'est foutu, ouais. C'est lunaire, quoi. Quand on a dit lunaire, il n'y a même plus une pousse verte qui apparaît sur la vigne.
Du gel, après un printemps précoce, ça ne pardonne pas.
3 semaines d'avance par rapport à d'habitude, donc forcément, là, quand il gèle, on perd beaucoup plus qu'en période normale.
Il n'y a plus de saison, ma bonne dame. À la rubrique Tout fout le camp, cette info qui jette un froid.
À Paris, les ailes du Moulin Rouge dans le quartier de Pigalle se sont effondrées dans la nuit.
C'est tout un symbole, c'est comme la tour Eiffel qui s'écroule, quoi. Et heureusement, sans victimes.
Une semaine en France avec le professeur Philippe Sansonetti, médecin, microbiologiste, professeur émérite à l'Institut Pasteur et au Collège de France, qui publie donc Microbes sans frontières chez Odile Jacob. Je ne sais pas si vous souhaitez réagir à l'actualité de la semaine, Philippe Sansonetti.
En tout cas, pas à la chute des ailes du Moulin Rouge.
Pas à la chute des ailes du Moulin Rouge. J'en reviens à ce livre, Microbes sans frontières, qui est un livre d'histoire aussi, histoire de la santé, histoire des épidémies, de la vie avant les antibiotiques, avant les vaccins. Vous rappelez, par exemple, la peste de 1720 à Marseille, 1000 morts par jour, la ville qui s'effondre, plus d'administration, plus de commerce, famine, violence, 27 mois de confinement absolu, 4 ans pour reprendre une vie normale, la moitié de la population de la ville qui a disparu. Vous racontez aussi le choléra à Paris, une des raisons qui ont poussé le baron Haussmann à rebâtir la capitale pour l'assainir. On pense aux gens de Mayotte, là, aujourd'hui. On nous annonce que on savait qu'il y avait des cas de choléra. Maintenant, on sait qu'il y a des cas autochtones de choléra à Mayotte. Faut s'en inquiéter de ça.
Oui, il faut s'en inquiéter. Comme du reste, c'est un peu le thème de ce livre. C'est qu'en fait, ce magnifique paradigme, comme on peut l'appeler, de la santé publique du XXe siècle, il est remis en tension par les maladies infectieuses au XXIe siècle. Pour des tas de raisons. Alors, le choléra, c'est intéressant parce que au fond, le choléra, c'est une maladie de l'environnement. C'est la bactérie, son site, son gîte, c'est l'estuaire des grands fleuves et les océans. Et c'est pas l'intestin humain. Donc, il est extrêmement sensible, en particulier au changement climatique, avec en fait une espèce de zone de confort pour lui. Il se développe dans le zooplancton. Donc ça dépend de la température de l'eau, de l'acidité de l'eau, de la concentration en sel. Et tout ça est en train de changer en faveur de créer de nouveaux environnements favorables à la croissance du vibrion qui est responsable du choléra. Et donc on va en voir de plus en plus, y compris plus vers le nord. La zone classique, le berceau du choléra, comme on dit, c'est le golfe du Bengale. C'est l'entrée du Gange dans l'océan. Mais on a maintenant, avec les observations satellitaires, la description de situations un peu partout sur la planète qui sont propices au choléra. Alors, bon, le choléra se développant dans un pays ou sur les côtes d'un pays industrialisé avec des systèmes sanitaires et hospitaliers en bon état, si l'on peut dire, est prêt à intervenir. Il n'y a pas trop de soucis, mais dans des situations de crise, et le choléra a toujours été une maladie marqueur de grandes crises. On l'a vu au 19e siècle, on l'a vu au Rwanda dans les années 90. Et ben, il apparaît à Mayotte parce que Mayotte est dans une situation désastreuse sur le plan sanitaire, sur le plan populationnel. Donc, c'est pas une surprise. Alors, on va arriver à contenir tout ça. Les vaccins ont jamais été trop utilisés dans ces circonstances épidémiques avec le choléra. Un de ces jours, il va falloir s'y mettre de manière à s'assurer qu'il marche bien, parce que peut-être il y aura des alertes encore plus violentes. Non, le choléra, comme je le dis avec un peu de provocation, est une maladie d'avenir.
Alors, le choléra de retour à Mayotte, il faut préserver l'environnement. Vous insistez beaucoup là-dessus, puisque toute la santé se tient, animale, végétale, humaine. Avec le réchauffement climatique, évidemment, il y a de nouveaux défis. Vous dites, on se demande même si on n'est pas en train d'assister au retour de la dengue dans l'Hexagone. Cette maladie était présente au début du XXe siècle et tout concourt à son retour. Et notamment, le moustique-tigre qui est désormais présent partout en France. Comment le reconnaître et lutter contre sa propagation? Eh bien, les agences régionales de santé sont mobilisées pour éviter justement la propagation. C'est le cas dans la Creuse, où l'insecte, la Creuse au hasard, a été signalé également. Elisabeth Kouftanovitch est responsable santé-environnement dans ce département. Elle est avec Camille André de France Bleu Creuse.
ce petit moustique, il a la particularité de piquer le jour. Donc notamment l'été, il a un pic d'activité entre 17h et 22h. Et en général, il est très agressif, c'est-à-dire qu'il pique beaucoup. Et la piqûre est un peu douloureuse. Donc là, le particulier avait été très embêté. Donc il a récupéré un moustique et il est allé sur la plateforme de signalement sur Internet. À partir de là, notre laboratoire expert a identifié que c'était bien un moustique tigre. Notamment, c'est un tout petit moustique, vraiment très très petit, moins d'une pièce de 1 centime. Et puis surtout, il a ses caractéristiques d'être rayé sur l'abdomen et sur les pattes. Ce moustique, il vole très mal. Il va pas aller au-delà des 150 mètres de là où il est né. Mais par contre, il prend l'avion, le bateau et surtout la voiture. Les gens vont le ramener dans leur voiture d'autres zones en France où il est présent, quoi.
Voilà, et si vous pensez que vous en avez un chez vous, vous allez sur le site signalementmoustique.fr. Professeur Sansonetti, c'est l'affaire de tout le monde de lutter contre ce genre de choses ?
Ah, c'est vraiment l'affaire de tout le monde. Là, il y a un problème d'éducation majeur. Je pense que le moustique tigre a envahi quasiment toute la France en une quinzaine d'années. Il est particulièrement robuste pour des tas de raisons. On n'a pas le temps d'en parler, mais ça, c'est une explication. C'est surtout effectivement les transports qui ont permis son passage, sa dissémination. Il n'est pas tellement dans le contexte réchauffement climatique ou autre comme d'autres populations de moustiques dans d'autres régions. C'est vraiment la robustesse intrinsèque et puis sa capacité d'emport de beaucoup de virus différents qui en fait finalement le côté dangereux.
Il peut transporter chikungunya,
Il peut transporter à peu près tout ces virus épidémiques dont on parle. Donc voilà, il y a un risque. Alors le risque est avec la dengue à l'heure actuelle. On a vu tout doucement des cas et ce qu'on appelle des cas secondaires, c'est-à-dire un patient revenant par exemple de Polynésie avec une dengue et l'apparition de petits clusters autour de ce patient, mais qui étaient liés à des moustiques locaux. Donc l'épidémie est possible, ce qu'on appelle le cycle vectoriel, c'est-à-dire le réservoir du virus, le moustique qui peut le transporter et la victime potentielle, qui est un autre être humain, sont là, ensemble, très proches les uns des autres. Donc 150 mètres, c'est suffisant pour aller piquer un autre individu. Donc il y a une vraie remise à jour des connaissances de la population sur le risque, en particulier tout ce qui concerne la prévention de la formation des gîtes, parce que les femelles pondent essentiellement sur de l'eau saumâtre ou sur de l'eau qui n'a pas été évacuée. Et c'est là, au fond, que toute la pièce se joue. Et il faut absolument que ce soit à la campagne ou dans les villes, on ait une reconnaissance et une politique de prévention efficace. Ça fait partie, je sais qu'il y a beaucoup de choses à faire, et la prévention, c'est pas le fort des Français en général, mais là...
Mais il y a des messages à faire passer, et c'est ce qu'on va essayer de faire ce soir.
On va voir la dengue revenir en France, vous imaginez, c'est quand même ahurissant.
Alors vous dites, vous imaginez, mais c'est justement là qu'on a un petit souci, c'est qu'il y a des maladies où on n'a plus conscience de ce que c'était avant, et notamment avant les antibiotiques, vous racontez ça très bien dans votre livre, les antibiotiques qui sont devenus automatiques, avec un retour de bâton qui est l'antibiorésistance, et vous insistez beaucoup là-dessus, parce qu'on a fait des tas de découvertes au XXe siècle, et aujourd'hui on se retrouve démunis face à l'antibiorésistance. Vous élevez notamment contre l'usage des antibiotiques dans l'agroalimentaire, c'est de la folie furieuse ce qu'on fait dans ce domaine-là ?
Oui, ça, il n'y a pas de discussion autour de ça. D'ailleurs, l'Union européenne s'en est aperçue depuis 20 ans, et l'utilisation des antibiotiques, soit en prophylaxie, soit comme facteur de croissance.
Dans les élevages intensifs.
Animaux, en particulier des porcs et des poulets, et en pisciculture. Tout ça est un risque énorme. On pense qu'environ, c'est des projections, hein, 300 000 tonnes d'antibiotiques sont libérées, intactes, dans la nature, donc dans l'eau essentiellement, chaque année, et plus de la moitié de ces antibiotiques qui circulent sont des antibiotiques qui sont actifs,
en plus, hein.
Et souvent à large spectre.
Dont on a besoin,
et plus de la moitié ne sont pas liés à l'utilisation médicale ou vétérinaire. Donc il y a un vrai... C'est comme le réchauffement climatique. On est dans une période où il faut reprendre à zéro un certain nombre de sujets. C'est cette fameuse histoire de l'anthropocène. L'homme devient un peu fou, l'homme fait des choses, abuse et même a fait, à la limite, des antibiotiques un polluant environnemental, ce qui est quand même une aberration absolue. Donc il faut redevenir stringent dans l'utilisation des antibiotiques. Ça se fait en médecine beaucoup, en tout cas dans nos pays. Et vous en dites vétérinaire, aussi... pareil. Et puis le reste, on met une croix dessus.
Et vous dites aussi qu'il faut trouver, il y a urgence à trouver de nouvelles molécules, parce que on en aura besoin. Il faut poursuivre la recherche de ce côté-là.
Il faut trouver la recherche, parce qu'on se trouve parfois en impasse thérapeutique, dans certaines situations, chez des patients graves. Et oui, il faut de nouvelles molécules. Et ça, c'est difficile. On a un peu l'impression, c'est ce qu'on dit en anglais, c'est les low-hanging fruits. C'est-à-dire qu'on a cueilli finalement les fruits les plus faciles à cueillir parce qu'ils étaient en bas des branches. Et les nouveaux antibiotiques, ils sont probablement beaucoup plus hauts, beaucoup plus difficiles. Il y a une vraie difficulté scientifique. On a l'impression qu'on a trouvé beaucoup de molécules issues de l'environnement, des actinomycèses, des souches microbiennes habituelles productrices d'antibiotiques, et que ça va être plus difficile. Alors, comme c'est plus difficile, c'est beaucoup plus cher. Il y a aussi un problème pour l'industrie pharmaceutique qui se désintéresse passablement des antibiotiques parce que ce ne sont pas des produits. C'est des produits qui marchent et qu'on utilise très peu de temps. Donc, sur le plan de la rentabilité financière, c'est pas terrible. Donc, quand il y a des choix stratégiques à faire, malheureusement, les antibiotiques restent un petit peu en deuxième, voire troisième ligne. Donc, il y a un vrai effort global et on se pense de temps en temps qu'il faudrait effectivement qu'il y ait peut-être un petit peu plus d'interventionnisme des États pour tout ce qui concerne ces produits vitaux à la santé publique. C'est un peu aussi les ruptures de stock des vaccins. Il y a tout un tas de sujets qui, avec l'utilisation massive de produits médicaux, font que voilà, la situation devient un peu tendue.
Alors les vaccins, on va en reparler dans quelques minutes, mais on va d'abord écouter un peu de musique.
Dans ses bas gris, dans ses eaux bleues, m'ont s'accroché à l'arbre, ma vie m'a prise, je suis au fer, presque à ton bras, deux pas pour le bal, trois sur le côté, passer lentement. Sous le ciel qui change ses habits sans faire de beau dimanche, sans faire de beau dimanche. 12 heures puis le reste en nous s'attoure. Joli chien qui tôt matin me mord le bras, les yeux les parallèles, les suivre jusqu'au ciel et tourner mon ombrelle. Ça n'était qu'un doux rêve sans faire de beau dimanche.
De Beau Dimanche, programmation signée Djoubaka.
France Inter, le 18-20. Claire Servageant.
Toujours en compagnie de Philippe Sansonetti, médecin, chercheur en microbiologie, professeur émérite au Collège de France et à l'Institut Pasteur, membre de l'Académie des sciences, de son équivalent aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Allemagne, lauréat de nombreux prix. Philippe Sansonetti, vous êtes né à Paris en 1949 et vous avez grandi dans le 15e arrondissement, pas très loin de l'Institut Pasteur. Votre vocation viendrait-elle de là ?
Oui, un peu. Il y avait, pour mes parents, il y avait quatre lieux sacrés dans ce petit coin du 15e arrondissement. Il y avait l'église. Il y avait l'église, il y avait le lycée Buffon où j'ai fait mes études, il y avait l'hôpital Necker Enfants Malades, où j'avais une tante et un oncle qui travaillaient, et l'Institut Pasteur. Je crois que j'étais un peu, alors peut-être pas trop dans le bain religieux, mais d'espèces de d'endroits sacrés que sont les hôpitaux, les instituts de recherche et les zones d'enseignement finalement. Donc oui, j'étais un peu baigné dans le culte presque de l'Institut Pasteur par mes parents.
Vous racontez dans votre livre ce jour de 1957 où vous êtes allé avec vos parents faire la queue justement, rue de Vaugirard, devant l'Institut Pasteur pour recevoir le vaccin contre la polio. Vous racontez les larmes de joie de votre mère quand vous avez été vacciné. C'était ça à l'époque ?
Oui, c'était ça. La polio, c'était affreux. C'était non seulement des morts chez des enfants, hein, c'était essentiellement des enfants, des adolescents. C'était des paralysies à vie. Et puis c'était l'angoisse des parents, c'était des épidémies estivales généralement, et à chaque fois que l'été revenait, l'angoisse des parents montait. C'était vraiment un spectre épouvantable, la poliomyélite, et ça a justifié d'ailleurs des investissements énormes, d'abord aux États-Unis et ensuite en Europe. Et oui, cette année 1957, c'était la première année où on commençait à vacciner les enfants contre la polio en France. C'était le vaccin Lépine d'ailleurs, on avait fait notre propre vaccin qui venait de l'Institut Pasteur. Il y avait la queue rue de Vaugirard et il y avait ces mamans avec leurs enfants. Je m'en souviens encore et pourtant ça fait pas mal d'années. Et je me souviens des larmes de ma mère qui... espèce de libération devant le spectre qu'était pour les parents. Donc c'est ça aujourd'hui, je pense, on a perdu bien sûr, et c'est normal, dans une certaine mesure, la mémoire de ce qu'était le poids des maladies infectieuses sur la société. Encore une fois, pas uniquement la morbidité, la mortalité, mais cette espèce de poids psychologique de la maladie, d'angoisse permanente devant les maladies infectieuses. Ça a été une libération véritable.
Et aujourd'hui, on voit, on est en pleine semaine de la vaccination. Hein. L'OMS a indiqué cette semaine qu'en 50 ans, on a gagné 154 millions de vies minimum. On a eu aussi une étude de Santé publique France qui nous explique que la défiance recule par rapport au vaccin. C'est des choses qui doivent, j'imagine, vous réjouir, Philippe Sansonetti. À propos de l'Institut Pasteur, vous dites très souvent, vous écrivez très souvent dans votre livre, nos pères fondateurs. On sent qu'il y a un esprit pasteur. Et c'est une institution avec ces légendes. Alors, je voudrais qu'on écoute un extrait radio de 1938 à présent, qui date de cette époque, à l'occasion des 50 ans de l'Institut Pasteur.
Nous voici maintenant, mes chers auditeurs, à l'Institut Pasteur. La loge du concierge est occupée par un alerte sexagénaire qui est lui-même un personnage fameux. C'est Joseph Mester. Joseph Mester qui veut bien nous accorder une brève interview dans laquelle il nous rappellera son extraordinaire aventure.
Monsieur Mester, vous aviez, si je ne me trompe, 9 ans, lorsque, dans le petit village alsacien où vous habitiez, vous avez été mordu par un chien enragé. Ayant entendu dire qu'à Paris, un certain chimiste du nom de Pasteur faisait des expériences sur la rage, vos parents décidèrent de vous conduire immédiatement à Paris, où ils eurent d'ailleurs beaucoup de peine à trouver Pasteur, n'est-ce pas ?
En effet, c'était en 1885. À cette époque, Monsieur Pasteur avait beaucoup d'ennemis, surtout dans le monde médical. Dans les hôpitaux, on refusait de me donner son adresse et l'on voulait me garder pour me soigner. Mais ma mère insista tellement qu'on finit par nous envoyer à l'école normale supérieure de la rue d'Ulm où travaillait M. Pasteur. M. Pasteur était très ému. Il n'avait jamais fait d'expérience de son vaccin autrement que sur les animaux. Mais ma mère insista, faisant valoir que puisque j'étais condamné, je n'avais rien à craindre et qu'on pouvait essayer sur moi le seul traitement qui existait. et à vous voir aujourd'hui encore si vigoureux. Je n'ai pas besoin de vous demander si le traitement a réussi.
Il a en effet parfaitement réussi, et c'est ainsi qu'on a la preuve formelle que M. Pasteur avait bel et bien trouvé le remède de la rage.
Voilà, Joseph Meister en 38 qui lit sa propre histoire. Philippe Sansonetti, à propos du prestige de l'Institut Pasteur, vous évoquez le Covid dans votre livre. Vous dites d'ailleurs votre immense déception que la France soit restée à l'écart, qu'elle n'ait pas réussi avec Sanofi à mettre au point un vaccin. Ça aurait dû être le cas.
C'est une tristesse, oui, parce que alors sur le plan du niveau scientifique et des
capacités
de faire les
choses... Vous qui avez travaillé toute votre carrière à l'Institut Pasteur et à l'hôpital de l'Institut Pasteur.
Y compris à l'hôpital au début, il y avait la possibilité, effectivement, que la France, via Pasteur et via Sanofi, soit dans le peloton de tête de la mise en place de ces vaccins. Et une grande partie du chemin a été fait avec deux vaccins qui étaient tout à fait prometteurs, vraiment au bon sens du terme, et qui probablement pourraient encore aujourd'hui servir parce qu'ils boucheraient un certain nombre de faiblesses de la vaccination ARN messager, éventuellement dans la durée de la mémoire et choses comme ça. Malheureusement, je pense qu'on a souffert, alors pour Sanofi, je ne peux pas en parler parce que c'est pas du tout ma maison, si je puis dire, mais pour l'Institut Pasteur, je pense que le problème de fond, c'est un problème de moyens. C'est-à-dire que Pasteur...
Les moyens de la recherche.
Les moyens de la recherche. Que l'Institut Pasteur n'a pas pu réunir les moyens financiers nécessaires pour pouvoir mettre en place les choses. C'est des moyens humains. Regardez ce qui a été fait avec le vaccin ARN messager, les soutiens qui ont été apportés, financiers, en Allemagne, aux États-Unis. Voilà, on est resté. Et j'ai peur que cette problématique dont celle-là a été un marqueur d'insuffisance des investissements et surtout de difficultés de mobilisation, de financement pour réagir à des crises, en tout cas dans le domaine sanitaire, nous joue de mauvais tours aussi dans le futur. Et ce serait vraiment dommage qu'avec un joyau comme l'Institut Pasteur, on aille rétrograder dans des pays qui finalement ne contribuent pas tant que ça à la santé. On a vu qui a vraiment contribué là dans cette situation.
Des moyens pour la recherche. Ouais. Vous parlez aussi d'illettrisme scientifique au sommet de l'État. Il y a visiblement tout un travail à faire. Et puis j'en reviens à votre principal message. Hein, il faut faire travailler les scientifiques ensemble, sans frontières, entre toutes les disciplines, médecins, vétérinaires, créer des filières communes. C'est ça le défi pour la suite.
Ah ben c'est sûr, surtout si on se met dans cette fameuse ambiance d'une seule santé. Il faut des filières communes. Il faut que les médecins et les vétérinaires prennent l'habitude de travailler ensemble. Il y a plein de choses à faire. Il faut aussi qu'on ait de grandes écoles, au moins une ou deux grandes écoles de santé publique en France. C'est pas normal que Santé publique France soit isolée sur un campus à la sortie de Paris. Il faut mettre de l'académie dans tout ça. Il faut les mettre à côté des mathématiciens, des biologistes, des sciences humaines. Il y a un concept à bâtir. Et malheureusement, non seulement il n'y a pour l'instant sans doute pas les moyens, mais il n'y a pas les moyens aussi, parce qu'il n'y a pas la volonté. Il faut écouter les scientifiques.
Voilà, il faut lire Microbes sans frontières. C'est terminé. Philippe Sansonetti, merci beaucoup d'être venu. Sur France Inter, c'est aux éditions Odile Jacob.